on parle des JO.
Ah voilà. Ben, moi, je veux bien en parler, tiens.
Alors, oui, mais alors d'abord, parce qu'on est tous contents, évidemment. Enfin, non.
Non, bah
on
justement,
est pas tous ça on tombe. Est, on n'est pas tous contents. Pourquoi? Ouais. Parce que il y a les nos JO qui sont pas contents, évidemment. Alors, j'ai fait un petit extrait d'un nos JO. Et puis tu vas réagir. Alors en l'occurrence, c'est Stéphane Passeron qui réagissait au fait que on allait avoir les JO en 2030.
Côté environnement, on voit très bien ce qui se passe actuellement. La planète est au bord du gouffre. Elle est malheureusement déjà bien engagée dans le gouffre. Il serait peut-être temps de voir nos activités, nos événementiels d'une façon complètement différente. L'essentiel, c'est de sauver notre planète et de sauver quelque chose. Il va falloir diminuer par 6 nos émissions de CO2. Faire des événementiels, on dit, c'est sûrement très agréable à regarder, mais là, on n'en est plus là, hein. Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il fait des chaleurs phénoménales, nos stations vont fermer les unes après les autres, et on ne va même pas se préparer pour tamponner cette problématique. Regardez, le nord de la France est sous l'eau, la Savoie est sous l'eau, après on a eu des sécheresses monstrueuses tout l'été, tout part à volo, et on continue à nous faire croire à des chimères.
Alors évidemment, on peut pas demander aux nos JO d'être d'accord avec les JO.
Je voudrais surtout qu'on leur donne pas trop d'importance. Parce que déjà, il est élu par qui, Stéphane Passeron?
Oui, non, mais bien sûr. Mais bien que les associations n'ont pas d'élus.
D'accord. Mais enfin, le problème, c'est que le discours qui tient, c'est un discours de décroissance. Pardonnez-moi, mais on a des exemples dans le monde de politique de décroissance. Ça n'a jamais mené à rien d'autre qu'à l'appauvrissement généralisé des populations. Bon. Donc la réalité, c'est que ce discours-là, ce n'est pas un discours anti-JO, c'est un discours anti-capitaliste. Et il faut être très, très, très attentif à cela, parce qu'il faut bien se rendre compte que ce discours qui est celui de l'extrême-gauche française, hein, qui vous dit qu'il faut tout arrêter. Hein. Moi, j'attire juste l'attention de tout un chacun sur le fait que si on arrête tout, on va globalement avoir un appauvrissement extrêmement fort et extrêmement rapide et une chute libre de nos économies. Bon, parlons plutôt de faits et de choses sérieuses. On vient de vivre les JO de Paris 2024. Moi, j'en parlais avec l'un des chercheurs du GIEC. Hein, c'est pas n'importe quoi, le GIEC, c'est quand même les plus grands scientifiques qui travaillent sur le climat. Qui nous dit très précisément Paris 2024 a réussi à se tenir, et les JO d'été c'est autrement plus important en termes de masse critique que les JO d'hiver, en diminuant le bilan carbone des Jeux Olympiques par deux. Ça n'a jamais été fait. Donc moi, ce que je crois, c'est que si on parle d'environnement, moi je veux bien qu'on parle de détails d'ailleurs, parce qu'il faudra quand même m'expliquer par le menu, dans le projet olympique du Briançonnais, ce qui est anti-écologique. Hein. Vraiment, il faudra me le prouver, parce qu'on a un projet, de transport en commun dans la vallée de la Guisane. Alors moi, c'est extraordinaire, les écologistes à mon conseil municipal, ils votent contre les transports en commun maintenant, d'être les seuls en France. Et le projet de village olympique, c'est un projet de sobriété foncière pour aller justement sauver un monument historique et non pas bétonner un terrain vierge artificialisé. Donc je voudrais bien qu'on m'explique. Je suis prêt à avoir ce débat. Pour autant, je pense que l'avenir, si on veut sauver notre climat et notre planète, j'y suis très attentif. J'étais pas plus tard que mercredi soir à l'Assemblée nationale avec Jean-Louis Etienne. Vous connaissez Jean-Louis Etienne, l'un des plus grands explorateurs français et très engagé sur ce sujet-là. Je préside moi-même le parc des Écrins, j'y suis extrêmement sensible. Mais à un moment, si on veut sauver la planète, il va falloir décarboner notre économie. Et décarboner tout court nos pays. Parce qu'il faut tout simplement arrêter de produire du CO2. Ce qui veut dire qu'il faut, se fixer l'objectif d'avoir des grands événements mondiaux, bien entendu, mais en essayant de diminuer leur impact carbone le plus possible. Mais il ne faut surtout pas les supprimer. Enfin, regardez, il y a des murs partout qui sont en train de se construire dans le monde. Mais il faut bien que les Jeux Olympiques, pour que ce soit le seul moment où on arrive à se parler, à partager des valeurs communes qui sont des valeurs de paix et de sport. Et puis les Jeux Olympiques, c'est le sport. On peut quand même en être heureux et en être fier. Surtout nous, à Briançon et dans les Hautes-Alpes. Et puis derrière, je m'excuse, mais toutes les personnes qui tiennent ce discours-là, parce que c'est un discours de longue date des écologistes de l'extrême-gauche, ils sont derrière anti-nucléaire, alors que, pardonnez-moi, mais passer d'une énergie de stock à une énergie de flux, c'est-à-dire à l'énergie électrique, c'est le seul moyen de lutter à court terme contre le réchauffement climatique. Donc leur discours et ce discours-là, il faut le déconstruire, parce que d'une part, il n'est pas crédible, et en plus de ça, il va nous amener dans le mur. Voilà.
Oui, je voulais poser la question à Philippe, puisque on parlait de tout à l'heure ensemble de l'aménagement qui était prévu pour les JO. Et tu avais une réflexion.
Oui, une réflexion, parce que j'ai déjà eu des échos de commerçants qui s'inquiètent un peu, parce qu'on a quand même une vallée étroite. C'est pas en Italie, hein, c'est chez nous. Qui s'élargit effectivement vers Monétier, mais Monétier, c'est fini. Il n'y aura pas de discipline olympique. Le problème, c'est qu'il y a des inquiétudes parce que notre vallée est étroite. Moi, je le sais, j'habite au bord de la, ce qu'on appelle encore la nationale. Mm-hmm. Tout contre. Hein. Mm-hmm. En face, il y a un champ et de l'autre côté, il y a une maison. Ça me semble très, très compliqué. Alors, on a déjà entendu parler de projets un peu délirants, de tunnels sous le champ de mer, les gens passent des meilleurs. J'ai quand même le sentiment, je dis pas nos JO, hein, je dis oui JO, mais quand même, on aura quand même des disciplines, j'ai envie de dire moyennes, hein, oui, en termes d'impact médiatique populaire.
Je suis pas du tout d'accord avec toi.
Je le dis. Je pense qu'on a fait le meilleur coup possible, parce que les disciplines du freestyle sont celles qui sont justement le plus regardées à la télé dans le monde.
Voilà.
On a un regard européen, parce que effectivement, on est passionné par les disciplines traditionnelles du ski alpin. Mais à l'échelle du monde, quand tu mets la Chine, l'Inde, etc., les disciplines freestyle sont les plus regardées. Donc médiatiquement, on a chopé le gros lot en réalité.
Médiatiquement, mais les Chinois, les Indiens vont pas venir à Serre Chevalier.
Ah ça, t'en sais rien.
Ça, écoute.
Alors là on verra.
À partir du moment où ils arrivent en Europe.
Moi, je suis juste un peu inquiet pour un.
Ouais,
mais revenons sur le premier point, parce que j'aimerais pouvoir te répondre.
Je suis juste un peu inquiet par rapport à une vallée étroite où on a du mal déjà à se caser pour ce qui est du commerce, des espaces publics, etc. Quand on me parle d'un double tunnel pour les bus, c'est très bien, c'est génial.
Non, mais personne n'a dit ça. Je vais peut-être repartir du début du projet.
Ouais.
Le début du projet, c'est tout simplement de respecter le cahier des charges du CIO et de se poser la question de savoir comment on amenait de manière sécurisée et autonome les athlètes sur les sites olympiques.
Ouais.
On peut le faire très simplement, on peut fermer toutes les routes. D'ailleurs, il y aura des restrictions de route pendant les JO, comme il y en a eu à Paris.
Bon. Ah oui.
Moi, ce que j'ai essayé de penser à l'époque, quand on a pensé ce projet un peu dingue avec Renaud Muselli, c'est de dire quel est le problème le plus structurant de la vallée de Serre. Je pense que tu me rejoindras là-dessus. C'est bien entendu la circulation. Pour des raisons géographiques, ça fait 20 km de long. Il n'y a pas beaucoup de stations qui ont plus de 5 fronts de neige et qui font 20 km de long. Mmh. Et on sait que ce problème de circulation, il est énorme. Et accessoirement, on parlait d'environnement tout à l'heure, il pèse aussi sur, bien entendu, la pollution et sur le dérangement pour arriver à circuler en saison. Bon. Donc moi, je fais partie des gens qui sont intimement persuadés qu'un projet de transport en commun pour relier Briançon à Monnetier, c'est la meilleure des choses à faire pour sortir les gens de leur voiture, pour simplifier la vie aussi de nos touristes. Ils sortent de la gare, ils rentrent dans un transport en commun qui peut facilement les amener sur leur lieu de vacances, que ce soit à Champemer, la Villeneuve ou au Monnetier-les-Bains. Bon. Donc c'est pour cela qu'on a pensé l'idée de faire une troisième voie qui soit réservée au transport en commun. Bon. Partant de là, il faut que chacun comprenne bien ce que c'est que ce qu'on appelle un bus à haut niveau de service et une voie réservée. D'une part, c'est pas forcément élargir la route partout. Tout simplement parce qu'une voie réservée en transport en commun, ça peut être la voie existante mais régulée par feu. C'est-à-dire qu'on peut, à des endroits, parce qu'effectivement, on a fait une étude géotechnique, on n'a pas le tracé aujourd'hui d'ailleurs. Moi, je suis très prudent là-dessus, parce qu'on est en train d'y travailler, et ça va prendre quand même quelques mois. Et quand on présentera le tracé, c'est qu'on l'aura d'une part concerné avec l'ensemble des communes concernées, avec les maires. Et on est en pleine étude là pour l'instant, donc on parle de choses assez virtuelles. Je voudrais juste te dire que quand on a fait l'étude géotechnique, on sait qu'il y a des endroits où, en utilisant les simples délaissés routiers qui sont existants, qui appartiennent au département, on peut largement faire une voie de transport en commun, parce qu'il s'agit de récupérer quelques 6 mètres supplémentaires en récupérant les délaissés actuels, c'est très facile. Et il y a d'autres endroits où effectivement c'est plus compliqué parce que il faudra faire des travaux. Il n'est pas question, d'une part, de faire des travaux incommensurables qui vont faire n'importe quoi. L'histoire du tunnel, tout ça, c'est ni plus ni moins que l'éternelle question qui a existé dans le débat public à Saint-Chaffré depuis des dizaines d'années, consistant à essayer de régler le problème entre l'ancien village, le nouveau village et cette route qui passe au milieu. Moi, je pense qu'il y a des manières assez simples et pas très onéreuses de le faire. J'en discuterai avec Madame le maire de Saint-Chaffré, mon ami Corinne Chanfray, le moment venu, mais peut-être que si c'est pas un passage routier qui à mon avis est très difficile pour des raisons géotechniques et d'ailleurs d'eau qui passe en dessous, ça peut être un passage piéton autrement amélioré que celui qui existe aujourd'hui et qui est utilisé par personne. En tout état de cause, que chacune et chacun soit rassuré, on ne va pas aller pénaliser les commerçants. Le but est justement, au contraire, de les avantager et de faire en sorte qu'aujourd'hui, on circule très difficilement. Demain, leurs clients fonctionnent avec beaucoup plus de facilité et si possible, de manière décarbonée, avec un bus qui fonctionne avec un haut cabossement sur le principe de ce qui pourrait ressembler à un tramway, mais sans électrifier, sans faire des travaux très lourds. Parce que, globalement, aménager et améliorer le transport en commun me semble être la seule solution viable pour les années à venir dans notre vallée. Alors, tout ça peut faire peur, je l'entends, mais à nouveau, soyons tranquilles, on va commencer par étudier, après on va concerter et après on fera. Mais disons-nous bien une chose, on a une chance inouïe de pouvoir les faire, ces travaux. et d'avoir les budgets pour les faire. Et ça, c'est une chance inouïe, c'est celle des Jeux Olympiques.
Et oui, oui, on pourra aussi évoquer le train. Tu voulais dire quelque chose
Tout bêtement, je reviens aux opposants au GEO. Tu sais que je suis un râleur patenté, mais un râleur contre les râleurs, c'est ça. J'ai eu la chance de les rencontrer, le hasard en tout cas, de les rencontrer sur un rond-point au Champ de Mars. J'ai été étonné, moi qui connais beaucoup de gens dans Briançon, je ne les reconnaissais pas.
Ils sont pas d'ici.
Ils sont peut-être, ils sont rarement natifs du Briançon. Et puis, je n'ai pas reconnu d'entrepreneurs, de gens qui avaient créé des choses et autres. Me suis-je trompé ? Le petit garçon qui parlait tout à l'heure passe, comment tu dis là ? C'est un petit garçon, passeron.
Donc, oui, Stéphane.
Il a quel âge ?
Stéphane.
Il a moins de 20 ans, c'est un adolescent qui parlait là.
Ah, mais non, pas du tout, Stéphane, il doit avoir 50 balais maintenant.
Ah quand même, ah ben, j'ai cru que c'était un petit garçon. J'aimerais lui poser la question, est-ce qu'aujourd'hui il ferait la station ? Il faudrait qu'il réponde, pas au Tiad, oui ou non, ferait-il la station de Serge Chevalier aujourd'hui ?
Par ailleurs, pardonnez-moi, mais vis-à-vis de certaines personnes, je ne vais pas les citer, surtout pas revenir sur la personne dont on vient de parler. Enfin, quand on a profité toute sa vie des instances fédérales, qu'on a déjà fait des Olympiades et qu'on a pris l'avion pour faire toutes les Coupes du Monde, pardonnez-moi, mais je trouve que des fois, il faut se regarder dans un miroir.
Ah bah tu me l'as enlevé, j'allais en parler de ça.
Alors, tu as évoqué le train. Moi, il y a un truc, puisque tu parlais, Arnaud, du logement social et des efforts que vous faites pour que les gens puissent se loger. Parce que c'est vrai que le prix de l'immobilier par rapport à des gens qui sont saisonniers et qui ont du mal à se loger, si on avait un transport de train un peu plus cadencé, un peu ce que tu disais au niveau du bus là, dans la vallée, avec des logements possibles à l'Argentière, à la Roche-de-Rhum, à Saint-Crépin, etc., mais avec une régularité et puis un peu comme en région parisienne, le RER, bon, on sent que ça pourrait se faire de façon intéressante.
Tu as mille fois raison et on peut même regarder un spectre plus large. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on a obtenu ? Pardonnez-moi, ça fait 30 ans qu'on fait des manifestations sur les quais de gare pour régler le problème du train.
Et déjà, on a rénové la gare.
En l'espace de 3 mois, nous avons obtenu 1. Commande par l'État des nouveaux trains de nuit, oui. Wagons et locomotives, les plus vieilles de France, opérationnels pour 2029. Mmh. 2. L'engagement de l'État, et François Bayrou, le Premier ministre, viendra avant la fin du mois de juin à Briançon préciser les chiffres pour rénover la totalité de la ligne TER entre Briançon et Marseille. Ça fait combien de temps qu'on en parle ?
Oui, on va aller plus vite.
Tout simplement parce que je vous rappelle que le train, il a roulé en 3 heures à l'époque, le TER. Si ce n'est qu'à l'époque, il roulait à 80. Les lignes sont tellement dégradées, les rails sont tellement dégalés, le ballast, que maintenant il roule à 40 ou à 50. Ouais. Donc on va pouvoir engager quasiment 200 millions d'euros pour rénover cette ligne. Ce qui me fait dire que tu as raison. En plaçant Briançon à 3 heures de Marseille, ça veut dire qu'on place des communes proches de nous, beaucoup moins loin, un de Marseille, deux de Briançon. N'oublions pas que sur cette ligne, il y a parmi les plus grands sites industriels de la région, il y a ITER, il y a Sanofi, tous les sites de Sisteron, ce qui veut dire qu'on a aussi une carte à jouer en termes de qualité de vie. Il y a des gens qui demain peuvent se dire, bah, finalement, je fais le choix d'habiter à Briançon parce que globalement, j'aime le ski, la montagne, qu'on mange 100% bio dans les écoles, que le tarif de la cantine, c'est 2,50€, moins de 3€ selon les catégories, et que j'ai une qualité de vie extraordinaire, il y a le soleil, et donc je fais ce choix. Et en plus, quand je suis là en télétravail les 2 jours de la semaine, maintenant j'ai la fibre. Donc quand je disais tout à l'heure que nous avons une stratégie et vraiment une opportunité en termes de diversification, je le crois. Et tout ça nous oblige à jouer sur nos atouts. Et entre vous et moi, comme on est la plus belle ville du monde, c'est pas très compliqué. Avec le meilleur climat du monde.
Ben voilà. Comme ça, l'affaire est...
Malheureusement, il est probable que les gens qui nous écoutent se soient rendus compte qu'il pleut depuis un mois. Mais enfin, c'est pas... vous avez vu, maintenant on ressemble à la Savoie. On a les Jeux Olympiques et il pleut. Voilà.
C'est tout vert.
Un dernier mot, parce qu'on arrive au terme de l'émission. On parlait un peu de hockey quand même. On a quand même parlé un peu de hockey, fervent supporter des Diables Rouges, qui ont eu une saison compliquée, mais qui s'est bien terminée. Ce qu'on ne dira pas des rapaces de Gap sauvés in extremis. Alors, avant de parler de Briançon, le retour du sorcier Luciano à Gap.
Moi, Luciano, c'est mon ami.
Ben oui.
Et donc, je resterai toujours son ami. Après, il fait des choix sportifs qui sont les siens. Je ne suis pas là pour les commenter. Tant mieux pour Gap, parce qu'entre vous et moi, c'est un super coach.
Ah oui.
Et en plus d'être un super coach, c'est un super mec. Donc, voilà, je lui souhaite à lui et sa famille le meilleur. Honnêtement, il est mieux en France qu'ailleurs.
Et tu voulais parler un mot de hockey ou pas ?
Oh, si vous voulez.
Parce que pour Briançon, toujours derrière, bien sûr. Et la ville.
Non, mais toujours derrière à fond, bien entendu. C'est le seul club professionnel qu'on a et la joie de voir plus de 2000 personnes dans René Froger, c'est une joie extraordinaire.
Oui, c'est extraordinaire de penser qu'on déplace pour chaque match à peu près 20% de la population. Hein.
Maintenant, il faut que la Ligue arrête, ouais. Arrête ses délires, parce que fondamentalement, tous les problèmes du hockey au Alpin, que ce soit à Gap ou à Briançon, viennent de la manière dont ce championnat est en train de se transformer en championnat qui privilégie les grandes villes.
Ouais.
Donc ils auront des grandes villes avec beaucoup de moyens et des patinoires vides. C'est ça qui va se passer.
Comme
parce qu'il y a un moment, il y a un moment où on peut plus suivre. Non, mais moi je suis très heureux qu'il y ait Marseille, c'est pas la question. Mais quand on modifie les règles à ce point-là pour faire en sorte que ça devienne tellement cher que les villes historiques du hockey ne puissent plus se permettre d'avoir un club, c'est vers là où on va. Il faut bien se le dire. On pourra pas suivre. Vous vous rendez bien compte que ce soit Gap ou Briançon, une très grande partie du financement est public, que ça soit municipal, conseil départemental, région, et que le modèle. D'un club de sport doit être soutenu par le privé, sinon ça marche pas, ça marchera pas. Et nous, malheureusement, dans les Hautes-Alpes, on n'a pas le tissu industriel qu'à l'Isère, avec Grenoble, qu'à Nice, qu'à Marseille, et donc on pourra pas avoir des acteurs privés qui viendront à cette hauteur-là.
On le voit bien au sein de la Ligue Magnus, il y a 12 clubs en France, il y en a 4-5, Chamonix, Briançon, Gap, Anglette, il va y avoir deux championnats, quoi. Il va y avoir le championnat des 8 premiers, dans lequel on a failli accéder cette année, et puis un championnat des 4-5 derniers qui vont se battre pour survivre sans arrêt.
Et parce qu'il y aura un championnat sans les supporters,
ouais.
Et sans les fans historiques, et sans ceux qui ont construit ce sport,
ouais.
Et un championnat marketing, mais dans lequel il n'y aura pas de supporters. Je crois que c'est dommage. Parce que, à mon avis, les dirigeants du hockey français, ils font une grave erreur, c'est qu'ils oublient que, malheureusement, c'est un sport qui doit encore chercher sa notoriété et son grand public. C'est un sport qui s'en sortira, comme tous les sports, quand il aura des droits télé, quand il aura une économie autour du sport, et qu'on est en train de franchir des caps. Le hockey n'a jamais été aussi populaire en France, c'est une très bonne chose. Et à ce moment-là, l'histoire de ce sport, s'il se prive de ces patinoires historiques, là où il y a les plus fervents supporters qui font vivre l'histoire, la culture de ces clubs, je crois qu'ils font une grande erreur.
Oui, alors, juste une anecdote, c'est pas du hockey mais c'est le foot. Moi j'ai mon gendre qui est fan du Saint-Etienne, et je suis allé voir le dernier match de Saint-Etienne contre Toulouse.
Je vais te faire une confidence, on y était tous les deux.
Ah, ouais. Et ben
voilà.
On s'est pas croisés.
Non, mais il y avait tellement de monde, 38 725 spectateurs.
Extraordinaire, Saint-Etienne.
Extraordinaire, une ambiance de dingue. Et tout ça
je
pour
suis pas
arriver.
Je voulais voir que l'ambiance, mais c'était extraordinaire.
Ouais, moi aussi. Et tout ça pour arriver au résultat qu'ils vont descendre Saint-Etienne en deuxième division. Alors qu'ils sont très populaires.
Oui, bien sûr. Évidemment, c'est un des clubs les plus populaires en France.
Comme Lens.
Depuis longtemps. Mais Saint-Etienne, c'est encore autre chose. Pourtant, je suis du Nord. Mais franchement, Saint-Etienne, c'est autre chose. Ils seront toujours dans le cœur des Français.
Mais c'est pour voir la ferveur des Briançonnais quand ils sont au hockey et qu'ils sont fans, évidemment. Et Saint-Etienne ou Lens, c'est un peu la même ambiance.
C'est un peu le même schéma.
Oui, voilà. Tout à fait. Bon, on est arrivé au terme de ce dernier numéro du Coq à l'âne à Briançon. Donc, je vous ai ramené un petit cadeau à chacun, parce que c'était quand même la moindre des choses. Voilà, alors tiens, Arnaud. Voilà. Alors, c'est un parapluie, il paraît que ça peut servir aux politiques, je ne sais pas. Mais voilà. Oui, c'est un parapluie. Alors je ne sais pas si on peut l'ouvrir.
Alors, je le dis
à
pour
l'intérieur.
Comme disaient des proches, je le dis pour nos auditeurs qui n'ont pas la couleur. C'est un parapluie alpin, hein, donc j'imagine qu'il faut l'utiliser quand on va à BFM, c'est ça?
Mais tu peux, sans problème.
Non, mais pour revenir sur mes propos de tout à l'heure, normalement nous n'en aurons pas besoin puisqu'on tient à nos 300 jours de soleil, donc personne n'a de parapluie à Briançon, c'est bien connu.
Alors on tient à nos 300 jours. Moi qui fais la comptabilité hein, de tous les jours, hein, je peux te dire que là on est quand même. On a un gros déficit par rapport à il y a 2 ans et même par rapport à l'année dernière. On doit être à 20 jours de décalage par rapport aux chiffres d'il y a 2 ans et à une dizaine de jours par rapport à l'année dernière.
Les nappes phréatiques nous disent merci, donc, les cueilleurs de champignons aussi.
Donc je pense qu'on va rattraper ça dans quelques temps. On aura peut-être, je dis bien peut-être, un été très ensoleillé, paraît-il.
Eh ben on le souhaite.
Et pourquoi pas caniculaire.
Oui, pourvu qu'on n'ait pas un été trop beau, hein, c'est ce que tu veux dire.
Oui, c'est ça.
Oui, d'accord.
Vous savez, si vous me permettez le mot de la fin pour parler de l'environnement, l'année dernière, on a failli, grâce aux précipitations qui étaient importantes, vous vous en souvenez, en mai, en juin, on a failli arriver à l'équilibre sur le glacier blanc. C'est-à-dire que le glacier blanc, il a perdu un peu de masse quand même, à cause des sables du Sahara d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de sables du Sahara, vous vous en souvenez, d'épisodes sableux au mois d'août. C'est ce qui a fait qu'on est passé en dessous de la jauge, mais ces précipitations qui avaient amené tant de neige, d'ailleurs, c'est pas sans causer d'autres problèmes avec la Bérarde, souvenez-en ce qui s'était passé, ces drames. Donc, Malheureux, voilà, les précipitations parfois ont aussi du bon, ça met de la neige en altitude.
Arnaud Murgia, merci. Hein.
Merci à vous.
Merci et d'être venu pour cette dernière.
Plein de bonnes choses à toi pour la suite.
Eh ben merci, merci à Philippe Stockley. Merci mon petit filou, hein, ça a été un plaisir.
C'était un plaisir.
Ces longues années. Alors, je vais éviter de t'appeler Rémi.
Oui,
Yves.
C'est sympa.
Yves Honoré, merci.
Merci aussi.
Merci d'avoir, d'être venu pour cette dernière et puis pour toutes les émissions. Puis Jean-Paul, bien sûr.
Bon, bah oui, pareil, on a passé de grands grands moments grâce à toi Thierry.
Mais c'est grâce à vous aussi.
On s'est baladé dans tous les pays du monde ou tous les pays de France et toutes les régions de France. On a rencontré des tas de gens différents. On s'est un petit peu frotté de temps en temps, mais c'était tout à fait logique. Et j'ose espérer qu'on a fait aussi bien avancer les choses.
Voilà, passez donc une belle journée à vous toutes et tous qui nous écoutez. On se retrouvera pour la toute dernière. Ce sera au début du mois de juin avec notre dernier invité. C'est le parrain d'émission, c'est Jean-Michel Arnaud qui sera avec nous.